France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un personnage ayant existé, mais l'écrivaine qui s'en était emparée à la fin des années 80 avait aussi beaucoup inventé. Un personnage bienveillant, nullement naïf, une sorcière, il est vrai. L'auteur de « Ses goûts » et plus tard de « La vie scélérate »,« En attendant le bonheur »,« La traversée de la mangrove »,« La vie sans phare », Maryse Condé était l'invitée d'Olivier Germain-Thomas le 18 mars 1987 dans Agora.
Maryse Condé, je suis très heureux de vous recevoir parce que cela faisait longtemps que j'essayais de vous avoir en face d'un micro. Ça n'est pas facile, vous viviez à une époque, enfin pendant 10 ans vous avez vécu en Afrique, vous vivez aussi dans votre région d'origine qui se trouve la Guadeloupe et vous me sembliez relativement insaisissable. C'est pour ça que je salue ce jour où je vais pouvoir enfin vous interroger sur votre œuvre et plus particulièrement sur votre dernier livre qui est publié aux éditions Le Mercure de France, dans la collection Histoire romanesque, et qui s'appelle « Moi, Tituba, sorcière noire de Salem ». Et je trouve, Maryse Condé, que vous avez mis beaucoup de malice, que vous avez été extrêmement malicieuse dans le choix de ce sujet, car vous jouez sur deux tableaux qui vous vont bien. Vous jouez sur le tableau du mythe, car il est bien évident que l'histoire des sorcières de Salem, à la suite des livres et des nombreux films qui leur ont été consacrés, joue très profondément sur notre conscient et sur notre inconscient. Mais du fait que vous avez pris une des protagonistes, qui s'appelle Tituba, dont on ne connaît pratiquement rien, puisqu'on sait qu'elle a participé à l'ensemble, on ne sait pas très bien en fin de compte comment s'est terminée sa vie, on ne sait même pas, ensuite vous dites qu'on suppose qu'elle a été vendue, mais on ne sait pas très bien où ensuite elle a atterri. Vous pouvez donc laisser un libre cours complet à votre imagination. Et je crois, connaissant les autres ouvrages que vous avez écrits, que cela vous convient tout à fait de pouvoir partir de quelque chose de concret, d'historique, et en même temps de vous laisser aller dans la plus grande liberté.
Oui, mais vous savez que le mythe des sorcières de Salem n'existe pas tellement pour un Antillais ou pour un, disons, un Africain ou un Noir américain. On a l'impression que le mythe est un mythe très porteur pour un occidental, pour, disons, un européen. Mais justement, le mythe que j'ai voulu créer était à partir d'une sorte d'absence. Ce mythe, quand je suis tombée par hasard sur l'histoire des sorcières de Salem, ça ne signifiait pas grand-chose pour moi. C'est devenu intéressant et important quand je me suis aperçue qu'il y avait une femme noire qui avait été mêlée, une femme noire qu'on avait totalement oubliée. Donc, oui. Ce qui a fait que l'histoire est devenue prenante pour moi, c'était la présence de Noir. Et je crois que, comme elle a été totalement évacuée de l'histoire, pour nous, pour ainsi dire, c'est moi qui vais en faire un mythe, mais il n'était pas là au départ.
Oui, mais enfin, il se raccroche effectivement sur un mythe qui lui est très puissant. Voilà. Vous dites d'ailleurs que votre découverte de la personne de Tituba s'est faite, vous dites que vous l'avez rencontrée dans les couloirs d'une bibliothèque américaine. C'est-à-dire que vous faisiez des recherches, je suppose, c'est à l'époque où vous enseigniez en Amérique et vous êtes tombé sur ce personnage.
C'est tout à fait vrai. On croit des fois que je fabrique un peu une histoire, mais c'est tout à fait vrai. J'étais allée chercher un livre à UCLA. Vous savez qu'il y a 5 millions de livres à UCLA, donc on se perd facilement dans les couloirs. Et je suis allée dans un département histoire et je me suis trouvée en face de ces sorcières de Salem. J'allais remettre le livre en place vite fait. Quand, en l'ouvrant, comme ça, machinalement, j'ai vu qu'il y avait Tituba venue de la Barbade. Alors du coup, ma curiosité a été éveillée et je me suis mise à me poser des questions, lire, interroger les gens, jusqu'à ce que j'arrive à fabriquer mon personnage.
Vous lui avez donné assez vite un visage ?
C'est-à-dire que c'est une affaire d'amour. Dès que j'ai été sûre qu'elle existait, Parce qu'au départ, je me suis demandé même, est-ce que c'est pas une invention, peut-être d'auteur. Dès que j'étais sûre qu'elle existait, j'ai commencé à l'aimer. Et je lui donnais un visage, bien sûr, que j'ai voulu très beau, sensuel, pour réagir contre ce mythe de la femme noire, surtout prégnant aux États-Unis, la doudou, la grosse nounou de Scarlett O'Hara, qui l'aide à faire peur, qui est là toujours à s'occuper des enfants. Il fallait que celle-là soit belle et sensuelle et qu'elle ait une personnalité à elle, très différente de ce qu'on attend.
Quelque chose m'a frappé en elle, elle est très bienveillante.
Oui,
et surtout lorsque les malheurs lui tombent dessus, elle pourrait avoir de la haine ou un esprit de révolte. Il y a un petit esprit de révolte au début, mais assez vite, surtout à partir du moment où il y a quand même de très grosses injustices qui lui arrivent, elle accepte les choses avec une sorte de fatalité. Je ne sais pas si c'est dû à sa condition de noir et d'esclave ou si c'est parce que vous l'avez voulu ainsi, peut-être pour rendre encore plus tragique le dénouement.
Oui, c'est-à-dire que la civilisation à laquelle elle appartient, à laquelle j'appartiens aussi, c'est pas une civilisation agressive. Les gens sont toujours prêts à donner, à pardonner aussi, et ne sont contraints à se révolter, devenir agressifs ou haineux que si on dépasse certaines limites. Je crois que l'histoire est là pour le prouver. La civilisation noire, en général, n'est pas une civilisation violente. C'est plutôt une civilisation de tolérance entre elles, peut-être entre nous.
Oui, on peut discuter, parce qu'en fin de compte, l'histoire des 20 dernières années en Afrique n'est pas une histoire non plus extrêmement paisible.
Non,
depuis
mais
les indépendances.
Mais on peut... Alors là, si vous voulez qu'on débatte, on pourrait dire que ce sont des... Oui, ce sont des conflits qui ont été plantés par une sorte de colonisation qui a semé des racines du discorde. Mais qu'au départ, les peuples noirs ne se sont pas lancés à l'attaque des autres. Ils ont toujours été dans cette rencontre avec l'Europe un peu les grands perdants, parce que peut-être ils avaient des idées idéalistes et peut-être parfois naïves. Ce ne sont pas des peuples conquérants. Il y a une parabole qu'on fait beaucoup. On dit qu'il y a des civilisations qui sont des civilisations de proie et des civilisations qui sont un peu des victimes. C'est pas très bon d'être toujours victime, c'est même très pénible. Mais on pourrait considérer que, dans leur rapport avec le reste du monde, elles se rangent dans cette catégorie.
On en vient très vite à l'Afrique avec vous, Marie Scondé, malgré vous peut-être, ou bien parce que là, le prétexte historique y était, parce que, en tant que Guadeloupéenne, vous êtes originaire de l'Afrique. N'y a-t-il pas chez vous une sorte de problème d'identité dans la mesure où vous trouvez au carrefour, en fin de compte, de trois grandes cultures ? La culture africaine, celle de vos ancêtres lointains, la culture des Antilles, celle de votre naissance et du lieu où vous habitez maintenant, après des pérégrinations à la fois en Amérique du Nord, en Afrique et en Europe où vous avez vécu, et en fin de compte, la culture française, puisque vous êtes citoyenne française, originaire d'un département français, et parce qu'en fin de compte, la langue que vous utilisez, votre langue d'écrivain, est la langue française. Y a-t-il des déchirements, ou bien au contraire, arrivez-vous à parfaitement naviguer et à faire une synthèse originale de ces trois tendances ?
Oui, le fait que je sois retournée vivre en Guadeloupe en juillet dernier prouve que j'ai en fait j'ai trouvé exactement à quoi j'appartenais. J'avais vécu pendant 10 ans en Afrique et j'avais toujours l'impression que quelque part, je n'étais pas en accord avec la culture africaine. Quand je parlais de l'Afrique, d'abord je déplaisais, j'irritais, on me reprochait d'en parler sans la comprendre. Et peut-être que c'est vrai. Donc, au fur et à mesure, à la suite d'un très long cheminement, je me suis rendu compte que ma vraie place était chez moi, qui est un lieu, finalement, de synthèse. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'apports africains, certainement. Il y a certainement des apports occidentaux. Mais enfin, les cultures ne se définissent pas par des mélanges comme ça. Ce sont les choses qui se vivent. On vit une culture, on ne la dissèque pas, à moins d'être un ethnologue. Et ce n'est pas mon cas. Donc finalement, à la suite d'un long cheminement, je me suis rendu compte que chez moi, j'étais bien. C'est aussi bête que ça, et que j'étais mal partout ailleurs. Donc je suis rentrée chez moi et j'y vis depuis un certain temps.
Où en êtes-vous vis-à-vis de la langue française ? Vous pratiquez une langue française ? Quelqu'un qui ouvrirait votre livre, moi, Tituba, sorcière noire de Salem, qui l'ouvrirait n'importe où, ne comprendrait pas immédiatement que vous êtes originaire des Antilles.
Oui.
Ça ne se sent pas. Ça peut se sentir peut-être dans une certaine composition. Ça en y reviendra dans une technique littéraire qui mêle, en fin de compte, un aspect peut-être musical dans la phrase où les choses sont peut-être moins raides que ce qui se passe en métropole. Mais je veux dire, ça n'est pas noté immédiatement, comme certains textes maghrébins ou d'Afrique noire sont notés immédiatement. Donc, vous inscrivez-vous dans la ligne naturelle de la langue française ou essayez-vous dans vos Antilles de trouver, en fin de compte, une originalité à votre langue?
Oui, alors c'est un problème important parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas tellement réfléchi à cela. J'étais en dehors des Antilles, donc j'écrivais avec le français que j'avais, qui était en fait un français extérieur aux Antilles. Mais depuis que je suis là, depuis 7 mois, bientôt 1 an, je suis interpellée par les problèmes qui se posent aux écrivains antillais, à savoir les problèmes qui naissent de la présence du créole, de son cheminement à côté du français, avec le français, à l'intérieur du français. Il est évident que le livre que je vais écrire et sur lequel je travaille, je pense, j'espère, que quand on l'ouvrira, début, fin, milieu, on verra qu'il est écrit par une antillaise. Parce que le langage, la langue sera, je pense, nourrie, changée, un peu transformée par cette présence du créole que je ne connaissais pas, que j'avais perdu de vue et qui n'est pas du tout apparente dans Tituba.
Avec le danger d'une sorte de présence folklorique du créole. Il ne peut pas être là comme une sorte de petit gadget supplémentaire.
Alors, le danger, c'est justement, vous avez raison, le folklore. Il faut, je crois que la règle dans ce domaine sera la beauté, la création de beauté. Parce que finalement, une langue, c'est ça. Il faut que la langue crée de la poésie, que la poésie emmène la beauté. Et je ne crois pas que le folklore emmène jamais la beauté. Ce sont les oripeaux, les stéréotypes, ce sont les clichés, mais ce n'est pas du tout la poésie vraie. Donc, la règle pour créer cette langue nouvelle va être la beauté, l'harmonie, la richesse de l'expression. Donc c'est un travail très dur.
J'ai bien aimé dans votre dernier livre la souplesse de la composition. On a l'impression, d'abord, vous refusez toute forme de didactisme et d'explication. Il y a énormément de dialogues, donc à ce titre c'est extrêmement vivant. Les descriptions ne sont pas trop longues, juste assez rapides pour qu'on puisse visualiser rapidement la scène. Et ça fonctionne beaucoup avec une grande souplesse, c'est-à-dire qu'on passe d'une manière, en fin de compte, beaucoup plus musicale que didactique, d'une idée à une autre, d'une scène à une autre. Ça fait partie de votre manière générale d'écrire, cette espèce de souplesse, enfin une sorte de danse dans la langue.
Oui, il y a plusieurs modèles quand on veut écrire un roman. Et pendant longtemps, je crois que nous avons eu comme modèle une certaine littérature française. Je crois que tous les écrivains antillais, à un moment, ont voulu faire un petit peu leur Balzac, ou bien leur Stendhal, ou bien leur Flaubert. Puis, ils se sont rendus compte que c'était un moule qui était peut-être un peu rigide et pour lequel il n'était pas exactement fait. Alors, on a cherché quel est le modèle qui nous permettra de faire du roman plus personnel. Et je crois que nous avons trouvé, d'une façon ou d'une autre, le modèle du conte. Ça veut dire un récit narratif qui a beaucoup de chansons, qui a beaucoup de répétitions, qui a beaucoup d'allers-retours, qui avance sans avancer, qui recule des fois quand c'est nécessaire, qui répète aussi les mêmes choses. Et que finalement, Tituba, c'est un peu une ébauche de ce que je voudrais faire comme structure désormais, un roman qui n'est pas bâti par chapitre, c'est-à-dire qui est bâti par chapitre, mais en fait les chapitres peuvent se répéter, comme je l'ai dit, et très lâche, une structure très, très, un peu floue, un peu lâche.
Vous avez été marqué par la musique ?
Oui, parce que je m'intéresse beaucoup à la musique populaire, c'est-à-dire les musiques de chez nous, les musiques comme le reggae, la pop musique anglaise et américaine que j'aime beaucoup, la musique noire américaine, les gens comme Aretha Franklin, le blues aussi. Donc, je m'intéresse beaucoup à la musique. Et je pense que si j'avais à choisir, j'aurais aimé être musicienne ou faire des paroles pour un chanteur. Bon, alors, comme ce n'est pas le cas, je crois que dans les romans, j'essaie de mettre cette dimension de paroles musicales, de paroles, de textes pour un musicien, pour un chanteur.
Dans le récit, vous aimez aller vite, Marie Scondé. Je prends par exemple un moment très important de votre livre qui se situe au début, qui est le moment où Tituba assiste à la mort tout à fait cruelle et tragique de sa mère, qui est pendue devant elle. Vous le traitez sans sentimentalisme, sans vous étaler, sans faire des phrases avec, c'est traité presque à coup d'épée. Là, vous dites... C'est donc Tituba qui parle, oui, parce qu'il faut donc rappeler que la technique, on le voit d'ailleurs dans le titre, moi, Tituba, sorcière noire de Salem, la technique, c'est la technique de la narration. Oui. Donc je, c'est Tituba elle-même qui parle. Je vis son corps, donc elle parle de la mort de sa mère, je vis son corps tournoyé aux branches basses d'un fromager, elle avait commis le crime pour lequel il n'est pas de pardon, elle avait frappé un blanc, elle ne l'avait pas tué cependant, dans sa fureur maladroite, elle n'était parvenue qu'à lui entailler l'épaule. On pendit ma mère. Point. Et vous passez à autre chose.
Oui, c'est parce que je crois que j'ai pas tellement envie de faire des mélos. Je sais que les mélos, c'est sympa, il y a les gens qui adorent ça. Mais enfin, je n'ai pas tellement envie de faire des trucs avec des gros sentiments, les gens qui pleurent ou qui sont émus. Donc, quand j'arrive à une scène qui est chargée d'émotions, j'ai tendance à être très froide et puis à la décrire avec une sorte de distance. Évidemment, on peut discuter, mais ça me paraît une grande discipline de ne pas se laisser aller aux sentiments.
Oui, enfin là, c'est Tituba qui parle.
Oui, mais elle-même...
C'est pas Maryse Condé.
Oui, mais elle aussi, finalement, elle et moi, je ne sais plus laquelle est laquelle. Hein. Surtout dans ces livres-là, on a été tellement confondus, on a été tellement en symbiose pendant le temps où j'ai écrit, que je ne sais pas du tout si c'est moi qui écrivais ou elle.
Vous vous sentez des pouvoirs magiques comme elle ?
Maintenant, je les ai perdus.
Vous en avez eu ?
Oui, enfin, pendant le temps où j'écrivais le livre, oui, j'en ai eu, certainement.
Réellement, c'était pas le fruit de votre imagination, vous avez eu des faits précis.
On ne sait pas, c'était peut-être l'imagination, peut-être la réalité. Enfin, je pensais, pendant que j'écrivais le livre, que je pouvais faire beaucoup de choses. Et une fois que c'était fini, bon, elle est partie, et puis je n'avais plus rien, j'étais redevenue moi-même. Mais enfin, à ce moment-là, je croyais que c'était elle qui parlait et qui refusait de s'attendrir sur des choses trop douloureuses. Sinon, elle n'aurait pas continué à vivre.
Ce qu'il y a très injuste vis-à-vis de Tituba, c'est qu'elle sait qu'elle a des pouvoirs sur l'univers, sur les autres, mais que la plupart du temps, sauf je crois dans un cas, elle s'en sert à des fins bienveillantes.
Oui.
Mais en fin de compte, la société ne le reconnaît pas.
Oui. En fait, tout le monde lui demande de faire le mal avec ses dons. Et elle dit que si elle fait le mal avec ses dons, en fait, elle les perdra ou elle les trahira. Que les dons qu'on lui a donnés, qu'elle a reçus en naissant, sont pour changer le monde et les choses dans le sens du bien. Et je crois que c'est une faiblesse, la malheureuse Tituba. Elle paie très cher quand même pour cette sorte de bonté un peu généralisée.
Enfin, il y a quand même la mort de Susanna Endicott.
Oui, c'est la seule fois, justement.
Voilà, quand même.
C'est la seule fois où elle a été méchante. Et je crois que tout le reste de sa vie...
C'est une personne, c'est déjà beaucoup.
Mais tout le reste de sa vie est conditionné par ce crime-là. Peut-être que s'il ne l'avait pas connu, s'il ne l'avait pas commis... Peut-être que son amour avec Jean Indien aurait été récompensé, qu'elle aurait été heureuse avec lui, alors qu'en fait, il l'abandonne et l'a trahi, il la laisse seule. Donc, il y a une punition immanente dans ce qu'elle fait.
Les grands traits de l'histoire. Donc, Tituba est originaire de...
La Barbade.
De la Barbade, oui. Ça, historiquement, c'est vrai.
C'est vrai. Alors,
on s'inscrit dans l'histoire.
Oui.
Elle vit donc assez jeune la mort de sa mère, qui est pour elle un traumatisme.
Non, ça, c'est faux.
Ça, c'est faux, oui. Ça, c'est inventé par vous.
C'est inventé par vous, oui.
Enfin, disons, parlons du livre, maintenant. Parlons du livre. Dans votre livre, donc, il y a ce traumatisme qui est très fort pour elle. Et puis, il y a l'arrivée de John Indien, qui est un blanc.
Et là... qui est un mélange d'Indien et de Noir. Il n'est pas blanc. John Indien est un métis. Il est descendant des Indiens qui occupaient l'île et des Noirs. Il est, l'incarnation un peu de l'Antillais dans sa complexité culturelle.
Et là, comment voyez-vous l'amour entre Tituba et John Indien ?
Oui, parce qu'il y a un problème finalement dans le couple Antillais. On a souvent tendance à traiter l'homme comme un enfant, bien gentil, mais assez irresponsable, et qui n'est pas toujours là quand on a besoin de lui. On le cherche des fois pour aider à vivre, et il est simplement là pour égayer la vie, et non pas pour la rendre plus vivable. Donc, Jean Indien, c'est un peu ça, c'est un peu un enfant que tu aimes beaucoup, qui lui apporte beaucoup de bonheur.
Avec une entente sensuelle forte.
Sensuelle,
entre les deux,
voilà,
oui.
Mais pas tellement un compagnon sur lequel elle peut s'appuyer.
Oui. Puis alors, il y a la fameuse suppression de Susanna Endicott. Et puis, à sa mort, elle a un nouveau maître qui s'appelle Samuel Paris.
Oui.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a l'impression que la présence du malin se développe dans sa vie.
Oui, parce qu'en fait, tout ce que je sais d'elle commence à son arrivée à Boston. Quand elle arrive à Boston avec Samuel Paris, qui avait été un commerçant malheureux à la Barbade, c'est un pasteur puritain, par conséquent, le malin est là tout le temps. Et il emmène cette servante et son mari dans le village de Salem. Et tout de suite, quand ils arrivent, ils sont deux noirs dans un village puritain, considérés donc comme le diable, tous les deux, surtout elle, Tituba. Et elle commet l'erreur, comme elle est très bonne, dans le fond, d'égayer les enfants de Samuel en leur racontant des histoires fantaisistes, fantastiques, qui sont des histoires originaires de la Barbade. Et des enfants qui ont l'esprit complètement envahi par le mal, par le démon, par Satan, voient évidemment ces histoires plus dangereuses qu'elles ne sont en réalité et les racontent comme le signe même, comme la preuve même de la nature diabolique de Tituba. Donc finalement, c'est malentendu et tout va naître de cela.
Vous voulez montrer en quelque sorte l'incompatibilité de ces deux univers, l'univers biblique manichéen assez rigide et puis l'imaginaire de la Barbade, mais en fin de compte d'origine africaine, qui lui fonctionne d'une manière beaucoup plus souple, avec des images et des contradictions. Là, il y a incompatibilité entre les deux.
C'est ça, rendez-vous manqué, rencontre manquée, une fois de plus, quelqu'un qui va être vaincu par l'autre. C'est vraiment une sorte de... C'est dommage, c'est triste de voir qu'elle arrive pour aimer et elle sera considérée comme maléfique et en fin de compte sera détruite.
Comment vit-elle ce malentendu? Comment s'en rend-elle compte?
Je crois qu'elle s'en rend compte quand une des enfants, qui était sa préférée, à qui elle racontait des histoires particulièrement vivaces, se détourne d'elle. Il la considère comme une envoyée, comme une émissaire même du malin. Je crois que c'est ce qui lui fait mal et que tout le reste lui fait beaucoup moins de peine que la trahison, ce qu'elle considère comme la trahison de cet enfant-là, parce qu'elle aimait.
Mais elle ne peut pas changer.
Non, parce qu'elle n'a pas les pouvoirs de changer le monde. C'est ça qui est un peu triste. C'est qu'elle peut prévoir un peu les choses, elle peut savoir ce qui va arriver, mais elle ne peut rien changer. Elle est obligée de subir quand même son destin.
Il y a aussi donc l'épisode avec Cohen de Azevedo qui est...
Inventé. Aussi.
Complètement inventé.
Oui, parce que j'avais des amis juifs sur le campus et qui me disaient, mais tu nous fatigues avec tes histoires de Noirs et de Tituba. Nous aussi, les Juifs, nous avons beaucoup souffert. Ils me racontaient comment ils avaient été interdits ces jours dans toute la province du Massachusetts. Donc, pour leur faire plaisir un peu, j'ai raccroché Tituba.
Enfin, on ne fait pas un livre pour faire plaisir à des amis.
Non, mais...
Ça devrait correspondre, j'espère, quand même, à Marie Scaudet, à une nécessité plus profonde
non,
chez vous.
Non. C'était simplement parce qu'ils m'avaient ouvert les yeux sur quelque chose que je ne connaissais pas, à savoir la souffrance des autres. J'avais l'impression que ceux qui avaient le plus souffert, c'était les Noirs. Et en fait, ils me prouvaient que les Juifs avaient souffert peut-être davantage. Et c'était, quand je dis faire plaisir, non, mais je veux dire leur rendre hommage, eux aussi, qui avaient, avant nous peut-être, ou bien en même temps que nous, souffert énormément.
Tituba passe pas mal de temps dans le lit de ses maîtres.
Oui, parce que moi, je crois que d'abord, cette idée du sexe et de l'amour considéré comme un péché, tout le monde s'en est plaint. Je ne suis pas la première à en faire le procès. Par conséquent, Tituba aime l'amour et les hommes qui lui donnent de l'amour, c'est une façon aussi de critiquer.
Oui, et puis si ça ne lui plaît pas, elle pense à autre chose. Elle ne prend pas cela d'une manière dramatique.
Non, mais finalement, l'amour est tout ce qu'elle a dans la vie. Le sexe est tout ce qu'elle a, puisqu'elle est esclave, elle n'a rien. Même pas d'identité, donc au moins un peu plaisir.
Oui, enfin, parfois, elle n'est pas très contente de son partenaire, mais elle ne le prend pas avec...
Enfin, Benjamin n'est pas beau, il n'est pas très beau, il n'est pas très vigoureux, mais enfin, il est quand même très tendre, très affectueux, et puis elle est quand même heureuse.
Oui.
C'est surtout ça.
Elle semble d'ailleurs assez facilement satisfaite, ce qui fait que... Ce qui est un trait de caractère général, aussi bien par les hommes que par la vie, que par les enfants... Elle a un regard, en fin de compte, très souriant vis-à-vis du monde.
Je crois qu'il ne faut pas non plus la prendre pour une sorte de bécassine. Elle a simplement une attitude bienveillante vis-à-vis du monde. Elle pense qu'il y a beaucoup plus de beauté dans le monde que peut-être il y en a en réalité. Elle pense aussi que les gens sont meilleurs qu'ils ne sont en réalité. Elle est plutôt positive. Elle n'est pas bête, elle est positive, je crois.
Elle aime bien rire aussi, il y a des, il y a des passages amusants d'ailleurs.
Oui.
Et on se rend compte que par derrière, l'auteur aime bien tout l'aspect ludique de la littérature.
Oui.
Par exemple, là, je relève quelques devinettes qui se trouvent vers la fin du livre. Je riais avec elle. Pourquoi donc l'homme est-il comme il est? Ma chère, si seulement on savait. Parfois, elles entrecroisaient des devinettes. Qu'est-ce qui guérit de la noirceur de la nuit? La chandelle. Qu'est-ce qui guérit de la chaleur du jour? L'eau de la rivière. Qu'est-ce qui guérit l'amertume de la vie? L'enfant. Il y a un jeu avec le langage et les réalités.
Oui, ce sont des proverbes entiers, des devinettes. Et au lieu de les coller bêtement comme si c'était dans un conte, on essaie de les intercaler dans le récit et de les faire apparaître comme ça au cours d'une conversation, d'un échange.
Cette femme qui a beaucoup aimé, qui a beaucoup échangé, devient enceinte plutôt sur le tard.
Oui. Parce que, en fait...
Là, c'est encore une invention de Marie Scondé.
Ah oui.
Complètement, oui.
À partir de sa sortie de prison, on ne sait rien. à partir d'elle, de la fin 1693, quand elle est vendue pour la deuxième fois, tout est inventé. Benjamin, le retour à la Barbade, tout, les marrons, la mort, tout ça, c'est inventé. Oui. Elle a un enfant assez tard parce que quand elle était jeune, elle avait été enceinte et elle avait dû tuer son enfant. Parce qu'elle ne voulait pas avoir un enfant esclave. Par conséquent, elle est heureuse quand même d'accueillir cet enfant sur le tard, mais elle ne l'aura pas non plus puisqu'elle est exécutée avant.
Vous avez à la fin une phrase que j'ai trouvée terrible. Tituba parle et elle dit « Je n'appartiens pas à la civilisation du livre et de la haine. » C'est ce « et » qui me gêne. Comme si le livre, là vous pensez à la Bible, ou civilisation du livre en général, c'est-à-dire civilisation qui se réfère à un livre sacré, à une révélation.
Oui. Enfin, j'ai surtout pensé à la civilisation de l'écrit, les civilisations...
Parce que vous l'avez mis un L majuscule, là.
Oui, mais c'était plutôt l'écrit. Peut-être qu'il aurait été plus exact de dire l'écrit. Je ne pensais pas à la Bible en particulier ou...
Ah bon, donc moi j'avais interprété différemment.
Enfin, oui.
Prenons l'écrit, vous ne voulez pas dire quand même qu'il y a forcément un lien entre l'écrit et la haine. Vous faites deux catégories séparées ou deux catégories liées?
C'est-à-dire que les civilisations de l'oralité sont des civilisations, comme je l'ai dit, mais vous n'êtes pas tellement d'accord, plus quand même tolérantes, plus...
Mon désaccord venait sur l'histoire de l'Afrique des 20 dernières années.
Oui.
Cela dit, les situations non écrites, moi j'ai étudié certaines situations non écrites en Inde, et on s'aperçoit que dans certains cas ça fonctionne très bien, et dans d'autres cas où les conditions économiques sont différentes, les gens se tapent dessus, vous savez.
C'est-à-dire que...
Si on avait une clé, on la connaîtrait.
Moi je pense à la civilisation non écrite africaine. Et je répète que au début, à part évidemment les guerres que les gens pouvaient avoir entre eux, comme tout groupe humain, il y avait des guerres intestines, ce ne sont pas des civilisations qui sont parties à la domination et à la conquête du monde. Ce ne sont pas des civilisations qui, au nom de la religion, ont fait les croisades. Ce ne sont pas des civilisations qui ont voulu civiliser des grandes parties du monde, qui sont parties comme ça pour donner des mots d'ordre, pour dire « il faut vivre comme ça, c'est mal de vivre ainsi, etc. » Donc je pense qu'on peut les opposer, ces civilisations orales, à des civilisations écrites, qui connaissent l'écriture et qui ont édifié des codes écrits de morale, de vie, de religion. C'est simplement ça que je voulais dire.
Oui. Vous arrivez un peu à sortir du mythe qui s'est créé autour du grand succès d'un de vos précédents romans, qui était en deux volumes, en deux parties, « Ses goûts ».
C'est-à-dire que, bon, un best-seller, c'est quelque chose qui colle à la peau. D'une certaine façon, c'est très bon d'en avoir fait un, mais enfin, je crois que, de toute façon, j'en sortirai. Parce que, au fur et à mesure, je m'éloigne de ce qui était dit dans Ses goûts, je n'écrirai plus jamais sur l'Afrique.
Fini? Sûr? Définitif?
Absolument.
Et toujours vous écrirez sur les Antilles? Non, on ne peut pas dire ça.
Non, je peux écrire peut-être sur la Chine demain,
oui.
Ça dépend.
Vous sentez que l'étape suivante est l'étape des Antilles,
oui,
et qu'ensuite ça pourra s'élargir ailleurs.
On ne sait pas, oui,
j'aime
bien
mieux
sûr.
Ça. J'aime mieux tout ce qui est ouvert quand même.
Oui. Mais il est sûr et certain que l'Afrique, c'est quand même une page tournée, et qu'au fur et à mesure, on sera bien obligé de voir que ses goûts, c'est fini.
Et vous considérez que vous menez un combat politique à travers votre écriture?
À côté,
au sens large.
À côté de l'écriture, certainement. Dans l'écriture, je ne sais pas.
Oui.
Mais à côté, certainement.
Dans quel sens? Dans le sens de l'identité, de votre identité à vous?
Oui,
dans le sens d'une émancipation féminine aussi? On dit que ça comptait dans votre vie.
C'est pas vraiment un débat politique, alors on ne va pas rentrer là-dedans. Mais il y a un problème aux Antilles. Il faut faire un choix. Un choix d'avenir pour la Guadeloupe, la Martinique. Et nous avons fait quand même ce choix.
Donc vous êtes militante pour une cause précise?
Oui, plutôt.
Oui, plutôt.
Oui, oui.
Pas d'une manière catégorique.
Ben, comme un écrivain peut l'être, c'est-à-dire avec beaucoup d'anarchie au fond, et avec un peu de désordre, qui le désordre même, je crois, de la création. On n'est pas des gens qui peuvent marcher ou pas dans un certain militantisme, mais quand même, je me suis définie très clairement dans les choix politiques, et j'essaie de travailler dans ce sens.
Et vis-à-vis du féminisme, parce que vous avez eu des contacts assez étroits, je crois, avec les milieux féministes américains, par exemple.
Oui, mais les féministes me considèrent comme une mauvaise féministe parce que je suis mariée, que j'ai des enfants, que j'aime mes enfants énormément, mon mari aussi d'ailleurs. Donc cette espèce de conflit, combat avec l'homme, cette parole féminine un peu agressive, comme je ne l'ai jamais, je ne suis pas toujours bien vue.
Et c'est bien d'échapper au clan, en fin de compte.
Oui, j'essaie.
C'est le propre des écrivains, disons-le.
Oui, je crois.
Des écrivains poètes, quand même.
Je crois.
Ne nous laissons pas enfermer, quand même, dans des catégories, dans des clans. un roman que je recommande, de Marie Scondé, qui est publié au Mercure de France, « Moi, Tituba, sorcière noire de Salem ». Et je voudrais signaler que ce roman, le 17 mars dernier, a obtenu le premier grand prix de littérature de la femme. Ah oui, ça tombe bien, c'est justement, oui. avec le féminisme. Je voudrais également signaler un autre livre de vous qui s'appelle « Pays mêlé », parce que je crois que la diffusion n'a peut-être pas été très grande.
Il a eu des malheurs. Il a une couverture abominable.
Il a une double couverture.
Alors, il a fallu faire un procès à l'éditeur. Et puis, évidemment, ça a retardé sa parution.
Enfin, ça, je ne sais pas si vous êtes bien avec votre éditeur. Je voudrais néanmoins signaler qu'il vient d'une maison d'édition qui s'appelle Attier et qui publie quand même cette excellente petite collection Monde Noir.
Ah non, nous sommes réconciliés maintenant.
Vous êtes réconciliés, alors tout va bien.
Oui, depuis qu'il a changé la couverture.
Je ne porte pas de jugement sur la couverture, mais je porte un jugement sur la collection. Et je trouve que c'est très bien que cette collection existe pour faire découvrir des textes qui, souvent, ne pourraient pas être publiés. Ne pourrait pas être publié ailleurs. Je vous remercie, Marie Scondé.
C'était Agora. Olivier Germain-Thomas recevait Marie Scondé le 18 mars 1987 sur France Culture.